45. La surprise de Pellerat était aussi grande que celle de Trévise, mais en outre assortie d'une trace évidente de plaisir.
« N'est-ce pas étrange ? »
fit-il. Trévise se tourna vers lui et lança d'un ton plus qu'acide. « Ce n'est pas étrange. C'est du charabia. »«
Absolument pas. C'est du galactique, mais fort archaïque. J'en saisis quelques mots. » Je le comprendrai sans doute par écrit. C'est la prononciation qui surprend vraiment.
Eh bien, qu'a-t-il dit?
Il a dit qu'il ne comprenait pas ce que vous disiez.
Je ne saurais dire ce qu'il a dit, intervint Joie. Mais je perçois en lui de la perplexité, ce qui concorde. Enfin, si je puis me fier à mon analyse des émotions robotiques, si tant est qu'une telle notion existe. Parlant avec une extrême lenteur et non sans difficulté, Pellerat dit quelque chose, et les trois robots inclinèrent la tête de concert.
« Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Trévise.
« Je leur ai dit que je ne parlais pas très bien, mais que j'allais essayer. Je leur ai réclamé un peu de patience. « Sapristi, mon ami, mais tout ceci est terriblement intéressant !»«
Terriblement décevant, oui. » marmonna Trévise.
« Voyez-vous, poursuivit le professeur, chaque planète habitable de la galaxie s'arrange pour élaborer sa propre variante de galactique, de sorte qu'il existe un million de dialectes, parfois tout juste intercompréhensibles, mais tous sont réunis par le développement du galactique classique. À supposer que cette planète soit restée isolée durant 20 000 ans, la langue aurait dû normalement dériver si loin de ce qu'elle est dans le reste de la galaxie qu'elle en apparaîtrait comme entièrement différente. Qu'il n'en soit pas ainsi vient peut-être de ce que ce monde possède un système social fondé sur des robots qui ne peuvent comprendre la langue que prononcée selon leur programmation initiale. Pour éviter d'incessantes reprogrammations, la langue est demeurée statique, et nous avons maintenant ce qui, pour nous, correspond à une forme tout à fait archaïque de galactique.
Ce qui nous prouve, nota Trévise, combien une société robotisée peut devenir figée et être conduite à la dégénérescence.
Mais mon cher compagnon, protesta Pellerat, maintenir une langue à peu près intacte n'est pas forcément un signe de dégénérescence. Cela comporte des avantages. Des documents conservés depuis des siècles et des millénaires gardent leur signification et procurent une plus grande longévité, une plus grande autorité aux archives historiques. Dans le reste de la galaxie, les décrets impériaux du temps d'Harry Seldon ont déjà une tonalité vieillotte.
Et vous connaissez ce galactique archaïque ?
Sans aller jusque-là, Golan, disons simplement qu'à force d'étudier les mythes et légendes antiques, j'ai plus ou moins pris le coup. Le vocabulaire n'est pas entièrement différent, mais les inflexions, elles, sont différentes. Il y a des expressions idiomatiques tombées en désuétude, et comme je l'ai dit, la prononciation est totalement changée. Je pourrais vous tenir lieu d'interprète à condition que vous ne soyez pas trop difficile.
Trévise laissa échapper un soupir vacillant. Un petit coup de chance, c'est toujours mieux que rien. Allez-y, Janov.
Pellerat se tourna vers les robots, attendit un moment, puis jeta un coup d'œil à Trévise.
Qu'est-ce que je suis censé leur raconter?
Jouons la carte à fond. Demandez-leur où se trouve la Terre.
Pellerat posa la question, mot à mot, en soulignant chacun d'eux avec des gestes outrés. Les robots s'entre-regardèrent en émettant des sons divers. Puis, celui du milieu s'adressa à Pellerat qui répondit en écartant les mains comme pour étirer un élastique. Le robot répondit en espaçant ses mots avec le même soin que l'avait fait Pellerat. Ce dernier traduisit enfin à Trévise.
« Je ne suis pas sûr de bien leur avoir fait comprendre ce que j'entendais par terre. Je les soupçonne de croire que je fais référence à quelque région de leur planète, car ils me disent ne pas connaître une telle région. »
Ont-ils cité le nom de cette planète, Janov?
Ce qui se rapprocherait le plus du terme qu'ils ont l'air d'employer, ce serait quelque chose comme Solaria.
En avez-vous déjà entendu parler dans vos légendes?
Non, pas plus que je n'avais entendu parler d'Aurora.
Eh bien, demandez-leur s'il existe un endroit nommé Terre dans le ciel, parmi les étoiles. Levez le doigt en l'air.
Nouvel échange. Et finalement, Pellorat se retourna et dit « Tout ce que je peux tirer d'eux, Golan, c'est qu'il n'y a pas d'endroit dans le ciel. »
Joie intervint.
Demandez à ces robots leur âge, ou plutôt, depuis combien de temps ils fonctionnent.
Je ne sais pas comment dire « fonctionner »,
avoua Pellorat en secouant la tête.
En fait, je ne suis pas sûr de savoir comment leur demander leur âge. Je ne suis vraiment pas un bon interprète.
Faites du mieux que vous pouvez, Pell chérie,
dit Joie. Et après quelques nouveaux échanges, Pellorat annonça.
Il fonctionne depuis 26 ans.
26 ans,
grommela Trévise, écœuré.
Ils sont à peine plus âgés que vous, Joie.
Il se trouve, commença celle-ci avec un orgueil soudain, je sais. Vous êtes Gaïa qui est âgée de milliers d'années. En tout cas, ces robots sont incapables de parler de la Terre par expérience personnelle, et leurs banques de mémoire ne contiennent à l'évidence rien en dehors du strict nécessaire à leur fonctionnement, d'où leur totale ignorance de l'astronomie.
Il se peut qu'il y ait sur la planète d'autres robots plus anciens, remarqua Pellorat.
J'en doute. Mais demandez-leur toujours si vous trouvez les mots pour le dire, Janoff. Cette fois, la conversation fut assez longue, et lorsque Pellorat y mit un terme, il était tout rouge et avait l'air manifestement dépité.
« Golan, je n'ai pas saisi une partie de ce qu'ils essaient de me dire, mais j'ai cru comprendre que les robots les plus anciens sont employés à des travaux manuels et qu'ils ne savent rien. Si ce robot était un homme, je dirais qu'il parle de ses aînés avec mépris. Ces trois-là sont des robots domestiques, disent-ils, et n'ont pas le droit de vieillir avant d'être remplacés. Ce sont eux qui s'y connaissent vraiment. Leur expression, pas la mienne.
Ils n'y connaissent pas grand-chose, grommela Trévise. Du moins sur ce que nous voulons savoir.
Je regrette à présent qu'on ait quitté Aurora si précipitamment. Si nous avions trouvé là-bas des robots rescapés, et nous en aurions trouvé sans aucun doute, puisque le tout premier que j'ai découvert possédait encore une étincelle de vie, eh bien, ils auraient connu l'existence de la Terre par leur mémoire personnelle.
À condition encore qu'elle soit restée intacte, Janoff,
observa Trévise. On peut toujours retourner là-bas, et s'il faut le faire, meute de chiens ou pas, nous y retournerons. Mais si ces robots-ci ne sont vieux que d'une vingtaine d'années, leurs fabricants doivent encore exister, et doivent être des humains, à mon avis.
Il se tourna vers Joie.
Vous êtes bien certaine d'avoir perçu... Mais elle éleva la main pour le faire taire, tandis qu'une expression attentive, tendue, se peignait sur ses traits.
Les voilà,
annonça-t-elle à voix basse. Trévise se tourna vers la butte, et là, émergeant tout juste, puis se dirigeant vers eux, apparut l'incontestable silhouette d'un être humain. Il avait le teint pâle et de longs cheveux blonds, légèrement hirsutes sur les côtés. Le visage était grave, mais d'allure tout à fait juvénile. Ses bras et ses jambes nues n'étaient pas particulièrement musclés. Les robots s'écartèrent et l'homme avança parmi eux avant de s'immobiliser. Il se mit alors à parler, d'une voix claire, agréable, et malgré les tournures archaïsantes, dans un galactique classique facile à comprendre.
« Je vous salue, vagabonds de l'espace, » leur dit-il. « Que vouliez-vous à mes robots ?